Merci d'écouter RFI, 13h en temps universel, il est 8h à Port-au-Prince.
RFI Midi. Anne Contner.
Dernière partie d'RFI Midi sur le continent américain avec à la une les conséquences commerciales des mesures douanières de Donald Trump. Et l'inquiétude pour les défenseurs des droits humains face à son projet de transformer la base militaire de Guantanamo en camp de rétention pour les migrants en situation irrégulière. Ça s'est déjà fait par le passé et c'était catastrophique, nous dira notre invité. Au sommaire également la menace des gangs en Haïti qui étendent régulièrement leur zone d'attaque. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises. En Guadeloupe, Benoît Ferrand, le département dispose désormais de son propre index BTP.
Désormais, il sera possible de réviser et d'actualiser les prix dans la construction selon des critères plus locaux et donc, en principe en tout cas, plus adaptés.
À tout à l'heure. Et tout de suite, le journal, l'essentiel de l'actualité internationale. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne Contner, bonjour à tous.
Les Américains poussent à des élections en Ukraine.
Donald Trump estime que les discussions menées par son pays avec l'Ukraine et avec la Russie se déroulent plutôt bien. Il l'a dit à sa descente d'avion à Washington, de retour de sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Rappelons que le président américain avait promis de régler la guerre entre la Russie et l'Ukraine en 24 heures. Il espère lancer prochainement des négociations de paix. Et parmi les premières pistes avancées, la tenue d'élections en Ukraine d'ici à la fin de l'année. Anastasia Becchio, l'idée n'est pas vraiment du goût de Kiev.
Des élections comme gage donné à Moscou. L'idée de l'envoyé spécial de Donald Trump, Keith Kellogg, d'organiser une présidentielle et des législatives cette année, est aussi défendue par la Russie. Vladimir Poutine ne veut pas mener des discussions avec son homologue ukrainien, qu'il estime illégitime. Le mandat de Volodymyr Zelensky a pris fin en 2024, mais la loi martiale en vigueur exclut la tenue d'élections. Citant des sources proches du dossier, Reuters indique que le scénario américain prévoit d'abord un cessez-le-feu, puis une présidentielle et des législatives en Ukraine, et seulement ensuite des négociations de paix. Organiser des élections pose de nombreux problèmes dans un pays dont près de 20% du territoire est occupé par l'armée russe, où plusieurs dizaines de milliers de personnes servent dans les rangs de l'armée, où des millions d'autres sont réfugiés à l'étranger. Les observateurs pointent aussi le risque de division de la société ukrainienne et d'ingérence russe dans le scrutin. Qui serait le vainqueur de cette élection, s'interroge l'ex-président Petro Poroshenko. Avant de répondre à la question, une seule personne, Poutine, il a déjà mis en place une campagne de désinformation élaborée. S'il y a des élections, il saisira le moment.
Anastasia Becchio, ajoutons cette information de l'agence Reuters. La Russie songe à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis pour accueillir un sommet Donald Trump-Vladimir Poutine. Depuis l'invasion de l'Ukraine il y a bientôt 3 ans, les 27 de l'Union européenne veulent doper leurs dépenses d'armement pour assurer leur sécurité face à la Russie. Or, il faudrait 500 milliards d'euros en plus dans les 10 ans à venir. Côté français, Emmanuel Macron propose d'acheter exclusivement du matériel européen et notamment français. Écoutez-le à son arrivée tout à l'heure à un sommet informel des 27 à Bruxelles.
Maintenant que c'est un plan d'action, tous les constats ont été faits, les rapports ont été faits, on a déjà tout dit. Comment l'Europe produit davantage pour elle-même? Comment l'Europe assume d'investir davantage sur son avenir? Et c'est en décidant d'acheter, de préférer les achats européens, qu'elle sera plus indépendante, c'est assez simple. Et donc c'est d'avoir cette volonté.
Emmanuel Macron ce matin à Bruxelles. Les nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump au Mexique et au Canada vont accroître l'incertitude économique. C'est la position défendue ce matin sur France Info par le gouverneur de la Banque de France. Demain entreront en vigueur des droits de douane de 25% sur les importations en provenance des deux grands voisins des États-Unis. Donald Trump doit s'en entretenir aujourd'hui avec le Premier ministre canadien et avec la présidente mexicaine.
Donald Trump qui a des projets pour le canal de Panama.
Oui, le président américain demande de meilleures conditions commerciales pour son pays, premier utilisateur de l'infrastructure, un ouvrage transocéanique que les Américains ont bâti il y a plus d'un siècle. Donald Trump s'inquiète en particulier de l'influence croissante de la Chine qui exploite 2 des 5 ports de la zone. Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, vient d'effectuer une visite officielle au Panama. Récit de Grégoire Pourtier.
Ce dimanche, Marco Rubio a eu droit à une visite guidée des écluses de Miraflores pour comprendre comment fonctionne le canal de Panama. Mais l'aspect technique est accessoire, ce sont bien les questions commerciales et sécuritaires qui ont provoqué les déclarations agressives de Donald Trump. À l'issue d'un entretien avec le secrétaire d'État américain, le président panaméen José Raúl Mulino s'est voulu rassurant.
Je n'ai pas du tout senti un climat de controverse ni de manque de respect. Au contraire, il y avait beaucoup de proactivité de la part des deux parties. Et surtout, une disposition à dépasser les questions ou les doutes qu'il peut y avoir sur ces questions.
L'influence de Pékin a été au cœur des débats car deux ports autour du canal sont gérés par une entreprise chinoise. Mulino a donc promis à Rubio de contrôler l'activité de ces infrastructures.
Pour la première fois dans l'histoire de ces concessions qui remontent à 1997, ces deux ports qui appartiennent à la même entreprise sont audités par les autorités compétentes de la République du Panama. Il faut donc attendre que ces études soient finies pour en tirer nos propres conclusions légales et agir en conséquence.
Le secrétaire d'État américain a de son côté fait savoir que son pays n'accepterait pas de statu quo et qu'il prendrait, si nécessaire, les mesures pour faire respecter le traité de neutralité qui régit le canal. Grégoire Portier, Panama, RFI.
Au Proche-Orient, tandis qu'une trêve est en vigueur dans la bande de Gaza, les violences redoublent en Cisjordanie occupée. De sources palestiniennes, quelque 70 personnes ont été tuées par Israël depuis le début de l'année. Nombreuses victimes, notamment à Jenin, dans le nord du territoire, où une vaste opération militaire israélienne est en cours. Près de 8 mois après les élections législatives, la Belgique a enfin un Premier ministre, Bart De Wever, chef des conservateurs flamands. Il a prêté serment devant le roi Philippe avec ses 14 ministres. À 54 ans, il devient le premier indépendantiste flamand à prendre la tête du gouvernement fédéral en Belgique, un gouvernement qui penche un peu plus à droite. En France, le Premier ministre François Bayrou a prévu de recourir deux fois aujourd'hui à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote le projet de loi de finances 2025 ainsi que le budget de la sécurité sociale. À l'Assemblée commencera cet après-midi l'examen du texte de compromis sur le budget 2025 issu de la commission mixte paritaire. Les députés de l'opposition ont voté contre en CMP, ne laissant guère d'autre choix au Premier ministre en l'absence de majorité à l'Assemblée que d'engager la responsabilité du gouvernement. François Bayrou devrait enchaîner rapidement, peut-être dès ce soir, avec un deuxième 49-3, cette fois sur la première partie du budget de la sécurité sociale.
Dans l'actualité également, les rats qui prolifèrent.
Et oui, ils sont partout, sur tous les continents, sauf peut-être en Antarctique. Les rats pullulent dans toutes les grandes villes du monde. Des villes qui dépensent chaque année environ 500 millions de dollars pour limiter leur propagation, mais sans succès. Une étude scientifique montre que le réchauffement climatique et nos modes de vie contribuent à la prolifération des rats. Igor Strauss.
Des hivers plus doux, à peine quelques semaines plus chaudes par an, suffisent à stimuler la croissance de la population de rongeurs. Ce temps leur permet d'être en surface, de se nourrir et d'acquérir les ressources dont ils ont besoin pour se reproduire, précise le professeur Jonathan Richardson de l'université de Richmond et auteur principal de l'étude. Sur les 16 villes analysées, 11 présentaient une population croissante de rats, comme Washington DC, San Francisco et New York. Mais la densité de population est un autre facteur contribuant à l'augmentation du nombre de rongeurs. Les villes plus denses connaissent une croissance plus importante du nombre de rats. Bien que les humains aiment haïr ces animaux, ils créent souvent les conditions dont les rongeurs ont besoin pour prospérer. Les rats sont un reflet des gens et de leur comportement, explique la professeure Kaylee Byers, co-auteure de l'étude. Et d'ajouter, ils sont en bonne santé dans les villes grâce à la nourriture que nous leur fournissons et aux environnements que nous créons pour qu'ils s'épanouissent. Les maires des grandes villes savent à présent ce qu'il leur reste à faire.
Un mot enfin des Jeux Olympiques d'hiver 2030 en France. Ce sera sans Martin Fourcade. Le multiple champion olympique de biathlon annonce qu'il renonce à devenir président du comité d'organisation des Jeux. Dans un courrier, il évoque des désaccords trop nombreux. Il ne sera donc pas aux Jeux d'hiver ce que Tony Estanguet avait été aux Jeux d'été à Paris. Voilà, je vous laisse en compagnie d'Anne Contener pour la suite d'RFI Midi.
Merci Gilles Moreau. Le prochain journal, c'est à 14h, temps universel sur RFI. Et pour l'heure, dernière partie de RFI sur le continent américain.
Vous écoutez RFI Midi.
Aux États-Unis, où Donald Trump occupe l'espace médiatique et diplomatique, 2 semaines au pouvoir, et déjà la guerre commerciale avec la Chine, le Canada, le Mexique, Être ennemi ou allié ne change rien. Le président américain impose de nouveaux droits de douane. C'est à la une de la presse, Vincent Souriau. Et dans de nombreux journaux du continent, on s'en désole.
Oui, on n'en voulait pas de cette guerre, nous dit le Toronto Star, le plus grand quotidien du Canada. Le coût de la vie va monter, les entreprises canadiennes vont souffrir, on va perdre des emplois. Le réflexe politique en ce moment, c'est de diviser, d'utiliser n'importe quelle crise. Et c'est ça que cherche Donald Trump, poursuit le Star. Il veut nous faire croire qu'on est devenu si faible qu'on n'a plus le choix. Il essaye de nous harceler. Et la manière dont nous allons répondre va modeler la marche du monde dans les années qui viennent. Heureusement, conclut cet édito du Star, toute la classe politique du Canada appelle à l'unité nationale. Les entreprises se préparent à encaisser le choc et les Canadiens s'y mettent aussi. Pétitions dans tous les sens, boycott des produits américains, annulation de voyages aux États-Unis. Malgré nos différends, conclut le Star, il n'a jamais été aussi important de faire cause commune.
Mettre la main à la pâte, Vincent, ça veut dire consommer canadien.
Oui, là-dessus, Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, a été très clair. À partir d'aujourd'hui, a-t-il dit, lisez les étiquettes sur vos produits et dès que vous le pouvez, choisissez le Canada. On y est. Et le Toronto Star, encore lui, propose à ses lecteurs une liste de produits made in Canada. Apparemment, il y en a, mais ils ne sont pas si faciles à trouver parce qu'ils sont mal indiqués. Alors, le Star rappelle quelles sont les marques 100% locales. Ça va du lait au pop-corn, de la bière au sac poubelle. Et le patron d'un site spécialisé qui s'appelle tout simplement Made in Canada explique qu'il a reçu 150 000 visites par jour depuis les annonces de Donald Trump, contre 10 000 visiteurs par mois en temps normal. Ironie de l'histoire, il a créé ce site en 2018 lors de la première vague de droits de douane brandie à partir de la Maison-Blanche par un certain Donald Trump.
Côté mexicain, c'est l'indignation après les termes employés par la Maison-Blanche.
Oui, parce qu'en plus des droits de douane, il y a les motifs et là, ça se corse. La Maison-Blanche n'hésite pas à écrire, je cite, que les cartels de la drogue ont une alliance intolérable avec le gouvernement mexicain et que le Mexique s'est arrangé pour permettre à ces cartels de produire et de distribuer ces drogues. Scandaleux, bien sûr, d'après la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, qui devrait y revenir en conférence de presse. En conférence de presse, c'est prévu à Mexico dans une heure et demie environ. On s'attend aussi, Anne, à des commentaires acerbes sur les opérations anti-migrants menées depuis l'investiture du 20 janvier.
L'immigration priorité de Donald Trump, le nouveau président multiplie les annonces choc après avoir promis la plus grande opération d'expulsion de l'histoire du pays et donc fait mener les premières arrestations quelques heures seulement après son entrée en fonction. Donald Trump a fait part de son intention d'ouvrir un centre de rétention à Guantanamo. Sur cette base, connue pour avoir été une prison et un lieu de torture après les attentats du 11 septembre 2001. Alors, ça n'est pas la première fois qu'il accueillerait des migrants. Dans les années 90, le président Clinton y avait envoyé 30 000 Cubains et Haïtiens interceptés en mer en tentant de rejoindre les États-Unis. Et cela n'avait pas laissé de bons souvenirs, comme l'explique Brian Concannon, avocat et directeur de l'Institut pour la justice et la démocratie en Haïti. Il répond à Anne Verdaguet.
Je suis très perturbé par ce projet. Guantanamo a déjà été utilisé comme un camp de concentration avec des conditions de détention inhumaines et cet endroit échappe à toute juridiction aux États-Unis. La politique récente de l'administration Trump a été de s'affranchir de la loi internationale et de prôner la maltraitance envers les populations immigrées aux États-Unis. Ces deux aspects réunis sont très perturbants, car selon une loi récente passée aux États-Unis, une personne venant de l'étranger peut être arrêtée même si elle a commis un délit mineur et elle pourra être de fait transférée à Guantanamo. C'est très inquiétant d'imaginer une personne détenue dans ces conditions, digne d'un camp de concentration, pour un délit mineur, et cela humainement et légalement parlant, mais aussi en termes de droits humains. And from a human
rights perspective. Le terme de camp de concentration que vous utilisez est un terme très fort.
C'est un terme très fort, en effet, mais je ne l'utilise pas à la légère, car la dernière fois qu'un grand nombre de personnes étaient détenues là-bas, c'était des Haïtiens dans les années 1990. Ils étaient 20 000, alors que Trump parle de la possibilité d'y mettre 30 000 personnes aujourd'hui. Leurs conditions de détention étaient terribles. Ils étaient dans des tentes surpeuplées, en plein soleil, entourés de fils de fer barbelés, sans nourriture convenable, sans la possibilité de faire de l'exercice et aussi sans aucun recours légal. Car les tribunaux américains ont dit qu'ils n'avaient aucune forme de juridiction à Guantanamo Bay, car ce n'est pas situé aux États-Unis.
So someone held there has no ability
Donc une personne détenue là-bas n'avait aucun moyen de dénoncer ses conditions de détention ou les mauvais traitements qu'il subissait. Et donc on peut dire que la perspective que cela se reproduise, c'est inhumain, c'est illégal et inhumain. Et l'on peut même dire qu'être détenu dans ces conditions, dans une base militaire en zone de non-droit, cela rappelle les camps de concentration.
Pourquoi cette base de Guantanamo, si controversée, n'a toujours pas été fermée ?
President Barack Obama, who was elected in 2008,
c'était l'une des promesses de campagne du président Barack Obama quand il a été élu en 2008. Mais nous sommes en 2025 et cela n'a toujours pas été fait. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, le fait de renvoyer certains prisonniers dans leur pays pose problème car ces pays n'en veulent pas. Il y a aussi le fait que les républicains et les démocrates ont pensé qu'il était risqué politiquement de détenir ces prisonniers aux États-Unis, car il y a un risque d'évasion et un prix à payer politiquement parlant si cela arrive. Mais la plupart des avocats pensent que cela aurait dû être fait depuis longtemps et qu'il y a des façons de transférer les prisonniers dans leur pays d'origine ou aux États-Unis sans que cela ne pose aucun risque. D'ailleurs, la plupart des prisonniers présents à Guantanamo à l'époque de la guerre contre le terrorisme ont été transférés ailleurs. En fait, l'une des raisons pour lesquelles cela existe toujours, c'est que les présidents américains aiment avoir un lieu où les tribunaux ne peuvent pas agir et un endroit où les prisonniers n'ont aucun recours en justice possible.
Quels sont les recours possibles justement pour vous aujourd'hui en tant qu'avocat si cette décision est mise en application ?
Il y a déjà des groupes d'avocats qui prévoient d'intenter des procès et qui vont tenter d'obtenir des injonctions de la part des juges pour stopper les vols d'expulsion. Nous avons déjà des signes d'opposition de la part de certains membres du Congrès, même s'il sera difficile pour eux de contester ces décisions, car les deux chambres sont à majorité républicaine. La peur est présente pour les immigrés haïtiens, mais aussi pour les autres communautés de couleur, qu'elles soient originaires des Caraïbes, d'Amérique latine et d'ailleurs. La décision de les expulser là-bas n'a d'ailleurs aucun sens d'un point de vue économique, car c'est très loin des États-Unis et cela va coûter très cher. Je pense que la raison pour laquelle Trump fait cela, c'est pour montrer à quel point il peut maltraiter ces personnes pour qu'elles partent, et aussi pour montrer à sa base qu'il est capable d'être cruel comme il l'a promis.
He can keep his promises to be cruel.
Voilà, entretien au micro de Anne Verdaguer. Brian Concannon, avocat, directeur de l'Institut pour la justice et la démocratie en Haïti.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Haïti, une nouvelle fois en état d'alerte, Vincent Souriau.
Vigilance accrue de la PNH, la police nationale haïtienne, alors que les gangs font craindre une extension de leurs opérations dans la région métropolitaine de Port-au-Prince après des menaces proférées par la coalition Vivre Ensemble. Plusieurs établissements scolaires, dont l'institution Saint-Louis de Gonzague, l'école Jean-Marie Guillou, près de la cathédrale, et le jardin de Marie-Lou, ont préféré fermer leurs portes aujourd'hui par mesure de précaution. Le ministère haïtien de la Justice évoque auprès du Nouvelliste des menaces virales sur les réseaux sociaux et des informations concordantes de différentes sources de renseignements qui rapportent des préparatifs d'une offensive imminente des gangs, notamment sur le Champ de Mars et à Kinskov.
Kinskov, victime déjà d'une attaque qui avait fait 50 morts. D'ailleurs, le ministre de la Justice a demandé à la police de prendre les mesures nécessaires face à des informations sur des menaces à la sécurité publique potentiellement déstabilisantes de la vie nationale. Pourtant, il y a peu, on ressentait un léger espoir à Kinskov, car une route permettait enfin de relier la ville sans passer par la voie principale contrôlée par les gangs. Il avait fallu du temps, la mobilisation de citoyens et des autorités locales pour mener le projet à bien, mais enfin, la route alternative était bien là. Notre correspondant Peterson Luxama s'était rendu sur place pour recueillir les réactions des habitants avant que les dernières attaques ne viennent de nouveau semer le doute et la peur.
Surplombant les montagnes haïtiennes, une route sinueuse attire désormais l'attention des habitants et des voyageurs. La route Kinskov-Marigot se dessine comme une alternative vitale à la route nationale numéro 2 sous contrôle des gangs. Grâce à cette nouvelle voie, Paul a pu rendre visite à sa famille dans le sud après 2 ans.
Avant, à chaque endroit où l'on arrivait, il fallait s'arrêter, faire descendre les passagers et même les motos devaient être poussées sur la route. Maintenant, les motos peuvent monter sans problème avec tous les passagers et les voitures circulent confortablement sur la route.
Une route route autrefois rocailleuse, difficile d'accès et impraticable. Dans les montagnes, les motos peinaient en effet à circuler et les chevaux trébuchaient souvent, selon cet habitant de Kinskoff.
En raison du mauvais état de la route, une moto qui passait a percuté un cheval et le cheval, en chutant, est passé sous la moto. Il a été tué. Souvent, les chevaux étaient utilisés pour transporter des charges pour les paysans. Ils tombaient et mouraient car la route était impraticable.
Mais les habitants de la zone ont entrepris des travaux et la situation s'est nettement améliorée. Depuis environ 5 mois, habitants, chauffeurs et ouvriers se sont unis pour rendre cette route accessible. Un effort titanesque réalisé sans trop grand soutien de l'État. L'ancien député de Marigot, Deus Deronet, se réjouit du résultat.
Nous
constatons une amélioration de la route. Les voitures peuvent désormais y circuler. Une personne se rendant dans la Grande Anse, le Sud ou les Nip peut y aller sans difficulté. Aujourd'hui, nous avons atteint ce niveau et nous en sommes heureux. On peut dire que nous disposons d'un couloir alternatif.
Adrien est membre du conseil d'administration de la section communale de Kinskoff. Il ne cache pas non plus sa satisfaction à la suite des résultats obtenus après les travaux entrepris qui permettent de se rendre en toute quiétude dans le sud du pays.
Je me sens heureux et joyeux de voir cette route aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de vous dire à quel point je suis comblé. Je me sens bien dans ma peau, car dans mes projets, mon rêve était de travailler pour améliorer ce tronçon de route.
Cependant, tout n'est pas encore terminé. Les besoins restent énormes. Le député Deus Deronet fait des propositions pour assurer l'entretien et la pérennité de l'axe.
Premier point critique là.
Il faut bétonner, construire des murs de soutènement, faire des gabions pour les protéger. Si on laisse ça comme ça, lors des averses, non seulement la route sera endommagée, mais les motos et les voitures ne pourront pas y passer.
Bien que des progrès significatifs aient été réalisés, la route Kinskoff-Marigot demeure un chantier en constante évolution. Les habitants appellent à un soutien plus structuré pour améliorer davantage les conditions de voyage. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
La country a fait son retour au palmarès de la musique américaine ces dernières années, c'est-à-dire dans Vanity Fair aujourd'hui. Et Beyoncé l'a prouvé hier à la cérémonie des Grammy Awards. Queen Bee qui, enfin, gagne l'album de l'année. Il était temps, Loïc Piala.
The Grammy goes to Cowboy Carter.
Après 35 Grammy Awards, plus que n'importe quel autre artiste sur la planète, Beyoncé a gagné le plus prestigieux, celui qui lui échappait encore. Meilleur album pour Cowboy Carter, un opus de musique country.
Je me sens très honorée. Cela fait des années que j'attendais.
Not Like Us, l'entêtant morceau du rappeur Kendrick Lamar, est sacré chanson et enregistrement de l'année au cours d'une cérémonie au ton politique. Alicia Keys a salué l'importance de la diversité, valeur remise en cause par l'administration Trump. Lady Gaga a défendu la communauté trans ciblée par le président Trump. Et Shakira, la superstar colombienne, a parlé d'immigration.
Je veux dédier ce prix à tous mes frères et sœurs immigrés. Dans ce pays, vous êtes aimés, vous comptez et je me battrai toujours à vos côtés.
Ces Grammy Awards, la première cérémonie de remise de prix depuis les incendies de Los Angeles, ont aussi permis de récolter 7 millions de dollars pour les victimes et les premiers secours. L'occasion aussi de célébrer la Cité des Anges avec par exemple California Dreamin', repris par Lady Gaga et Bruno Mars. Loïc Piala, Los Angeles, RFI.
Voilà, cérémonie des Grammy Awards qui a vu enfin, pour la première fois, Beyoncé remporter le Grammy du meilleur album de l'année. Juste avant cette cérémonie, Queen Bee avait annoncé une nouvelle tournée dans le monde entier. On sait qu'elle passera par la France. Merci à tous d'écouter RFI. 14h24 ici à Paris.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on vous retrouve, Benoît Ferrand, pour parler d'abord de la Guadeloupe, qui dispose depuis le 1er février de son propre index BTP.
Jusqu'ici, les marchés publics étaient évalués avec des indices hexagonaux. Désormais, avec ce nouvel indice élaboré par le CERC, la cellule économique régionale de la construction, eh bien désormais, il sera possible de réviser et d'actualiser les prix selon des critères plus guadeloupéens et donc, en principe en tout cas, plus adaptés. Pascal Pétrine.
La Guadeloupe est le troisième département d'outre-mer à produire ses propres index de manière autonome. Une étape importante pour refléter la réalité du marché local de manière à ajuster au plus près le prix des matériaux de construction. De ce fait, ces indicateurs BTP Made in Guadeloupe constituent une avancée significative car auparavant, les marchés publics étaient évalués par des index nationaux qui ne reflétaient pas la conjoncture locale. Florent Ferville, chargé de mission de la CERC.
C'est avant tout une approche terrain. Ce qui est le plus important avec nos index, c'est de les enrichir de manière continue. Donc, avec le temps, toujours rajouter des points de vente, rajouter des produits afin de délivrer les index les plus fidèles à la réalité économique et à la conjoncture du territoire.
Ces index qui reflètent la réalité de notre marché local seront désormais mis à disposition des professionnels et du tout public, à charge pour les commerçants concernés par la collecte de données de communiquer leurs prix chaque mois.
On reste en Guadeloupe avec les matinées de l'emploi en agriculture bio. C'est un job dating organisé demain et mercredi. Il y a des besoins. La superficie cultivée en bio en Guadeloupe a été multipliée par 20 en 10 ans. Christophe Lechmann est le président du groupement de développement de l'agriculture écologique et biologique.
Il y a différents types de salariés. Il y a ceux qui vont travailler directement en partenariat en tant qu'ouvriers agricoles à la ferme. Ceux qui peuvent travailler en tant qu'auto-entrepreneurs ou chefs d'entreprise et en faisant des prestations. Il y a aussi des personnes qui viendront travailler plus en tant que cargo transformateur parce qu'aujourd'hui, sur la ferme bio, de plus en plus, on emballe, on transforme. Les produits ont besoin d'être transformés avec des personnes formées qui connaissent les règles d'hygiène et les règles de transformation. Comme nous, on ne peut pas produire énormément, on ne fait pas de grandes surfaces. Il est important de mettre en place un certain nombre de stratégies sur la ferme pour que l'agriculteur puisse diversifier ses revenus. Et ça permet de diversifier les revenus à partir d'un produit d'origine de qualité.
Un reportage, bien sûr, de nos confrères de la première Guadeloupe. Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. Un peu de musique avant de se quitter. Mon cœur qui s'emballe. I'm feeling so high. Avec le morceau Tuning de la chanteuse française Isolt qui sera ce soir en concert à New York. Et c'est avec Isolt que se termine RFI Midi. Pour aujourd'hui, l'émission était réalisée par Vincent Biteau. On se retrouve demain, 11h30, temps universel. Et pour l'heure, vous avez rendez-vous avec Pascal Paradou pour son émission De Vive Voix. Très bonne journée à tous.
RFI Midi.
RFI, la sélection du mois.
Achaqué et Whisky.
La journée je reste calme, mais quand je rentre chez moi,
Arma Jackson.
Ferme ma clé à double tour et tous les jours je danse comme dans Hoosberg.
RFI Musique.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.